Carnet d'un inconnu, troisième fichier. 4. Le thé. La salle où l'on prenait le thé donnait sur la terrasse où j'avais rencontré Gavrilo. Les étranges prédictions de mon oncle sur l'accueil qui m'était réservé ne laissaient pas de m'inquiéter beaucoup. La jeunesse est parfois excessivement fière et le jeune amour-propre toujours susceptible. Aussi me sentis-je assez mal à mon aise, en pénétrant dans la salle à l'aspect de la nombreuse assistance réunie autour de la table. Ce fut cause que je me pris le pied dans le tapis, et fus contraint de bondir au beau milieu de la pièce pour retrouver mon équilibre. Aussi confus que si j'eusse compromis du coup et ma carrière et mon honneur et ma réputation, je restais figé sur place, plus rouge qu'une écrevisse, et promenant sur la compagnie un regard stupide. Si je signale cet incident insignifiant, c'est qu'il eut une extrême influence sur mon humeur au cours de presque toute cette journée, et, par suite, sur mes relations subséquentes avec quelques-uns des personnages de ce récit. Je voulus saluer, mais ne pus en venir à bout. Je rougissais encore davantage. Me précipitai vers mon oncle, m'emparai de ses mains et m'écriai d'une voix haletante « Bonjour, mon oncle !» Mon intention était de dire quelque chose de très fin, mais je ne trouvai que « Bonjour, mon oncle !»« Bonjour, bonjour, mon cher ami !» répondit l'oncle qui souffrait pour moi. « Nous nous sommes déjà vus, mais, » ajouta-t-il à voix basse, « sois donc plus brave, je t'en supplie. Cela arrive à tout le monde. Parfois, on ne sait quelle figure faire. Permettez-moi, ma mère, de vous présenter notre jeune homme, que vous aimerez certainement, mon neveu Serge Alexandrovitch, » dit-il en s'adressant à toute la compagnie. Mais avant d'aller plus loin, je demande au lecteur la permission de lui présenter les personnages qui m'entouraient. C'est indispensable pour l'intelligence de cette histoire. Il y avait là plusieurs dames et seulement deux hommes, outre mon oncle et moi. Foma Fomitch, que je désirais tant voir, et qui, je le pressentais déjà, était le maître absolu de la maison, Foma Fomitch brillait par son absence, comme s'il eût emporté le jour avec lui. Tout le monde était morne et préoccupé. Cela sautait aux yeux, et si confus et ennuyé que je fusse alors moi-même, je ne pouvais pas ne pas voir que mon oncle était presque aussi ennuyé que moi, malgré ses efforts pour cacher son souci sous une gaieté de commande. Quelque chose lui pesait sur le cœur. L'un des messieurs qui se trouvait là, un jeune homme d'environ 25 ans, n'était autre que cet Obnoskin, dont mon oncle avait tant loué l'intelligence et la moralité. Il me déplut souverainement. Tout en lui décelait le mauvais ton. Son costume était usé comme son visage, où une moustache fine et décolorée et une barbiche hirsute prétendaient visiblement à proclamer l'indépendance intellectuelle de leur propriétaire, et peut-être même la libre pensée. Il clignait des yeux sans cesse, souriait avec une feinte malice, et, se prélassant sur sa chaise, il braquait son lorgnon sur moi à tout instant pour le laisser craintivement retomber dès que mon regard se tournait vers lui. Autre monsieur, mon cousin Mizanchikov, âgé de 28 ans, était en effet un silencieux. Il ne dit pas un mot de tout le thé et restait grave quand tout le monde riait. Mais il ne me parut pas avoir l'air timide annoncé par mon oncle. Au contraire, le regard de ses yeux bruns exprimait la résolution et la fermeté de caractère. C'était un assez beau garçon, au teint foncé, aux yeux noirs et très correctement vêtu, au compte de mon oncle, comme je l'ai su plus tard. Parmi les dames, je fus tout d'abord frappé par la demoiselle Perepelidzina, à cause de sa face livide et méchante. Assise près de la générale, mais légèrement en arrière, par déférence, elle se penchait à chaque instant pour chuchoter à l'oreille de sa bienfaitrice. Deux ou trois personnes âgées et complètement privées du don de la parole se tenaient près de la fenêtre, les yeux fixés sur la générale, dans l'attente respectueuse d'un peu de thé. Je remarquai aussi une grosse dame d'une cinquantaine d'années, fagotée, fardée, et dont les dents avaient cédé la place à quelques chicots noircis, ce qui ne l'empêchait pas de minauder et de faire de l'œil. Une quantité de chaînes brinquebalait après elle, et elle ne cessait de me lorgner, à l'exemple de M. Obnoskin, dont elle était la mère. Ma tante, la douce Praskovia Ilinichna, s'occupait à verser le thé. Mais il était évident qu'après une aussi longue séparation, elle brûlait du désir de m'embrasser, mais elle n'osait le faire. Tout semblait défendu en cette maison. Près d'elle était assise une fort jolie fillette d'une quinzaine d'années, dont les yeux noirs me regardaient avec une curiosité enfantine. C'était ma cousine Sakenka. Mais la plus remarquable de toutes ces dames était sans conteste une personne bizarre, vêtue très luxueusement et en toute jeune fille, bien qu'elle eût déjà environ 35 ans. Son visage était maigre, pâle et desséché, mais néanmoins fort animé. Ses joues décolorées s'empourpraient à la moindre émotion, au moindre mouvement, et elle ne cessait de s'agiter sur sa chaise, comme s'il lui eût été impossible de rester tranquille une seule minute. Elle m'examinait curieusement, avidement, se penchait pour chuchoter quelque chose à sa Kenka ou à une autre voisine, après quoi elle éclatait de rire avec un puéril sans gêne. À mon grand étonnement, ces excentricités ne semblaient surprendre personne. On eût dit que les convives étaient d'accord pour n'en faire point cas. Je devinais en elle cette Tatiana Ivanovna, dont mon oncle disait qu'elle avait quelque chose de fantasque, celle qu'on lui fiançait de force et pour qui toute la maison était aux petits soins, eu égard à sa richesse. Ses yeux me plurent, des yeux bleus et très doux, en dépit des rides qui les cernaient. Leur regard était si franc, si gai, si bon, qu'on se réjouissait de le rencontrer. Je parlerai plus loin de Tatiana Ivanovna, qui est une des héroïnes de mon récit. Sa biographie est fort intéressante. Quelques 5 minutes après mon entrée dans la salle, on vit accourir du jardin un charmant garçonnet, mon cousin Ilusha, suivi d'une jeune fille un peu pâle et fatiguée, mais très jolie. Elle jeta sur l'assemblée un regard investigateur, méfiant et même timide, puis, après m'avoir examinée à mon tour, elle s'assit à côté de Tatiana Ivanovna. Je me souviens que mon cœur battit. J'avais compris que c'était là cette fameuse institutrice. À son entrée, mon oncle me jeta un regard rapide et devint écarlate. Mais, se baissant aussitôt, il saisit Ilusha dans ses bras et vint me le faire embrasser. Je remarquai aussi que Madame Obnoskin examinait d'abord mon oncle, puis dirigeait son lorgnon sur l'institutrice avec un air moqueur. Mon oncle était tout confus, et ne sachant quelle contenance prendre, il appela Sakenka pour me la présenter. Mais elle se contenta de se lever et de me faire une grave révérence. Ce geste me charma parce qu'il lui seyait. Ma bonne tante n'y tint plus, et, cessant pour un instant de verser le thé, elle accourut m'embrasser. Mais nous n'avions pas échangé 2 mots que s'éleva la voix de la demoiselle Perepelidzina, remarquant que Praskovia Ilinichna avait dû oublier sa mère, la générale, qui avait demandé du thé, mais elle attendait encore. Ma tante me quitta aussitôt et s'empressa d'aller vaquer à ses devoirs. La générale, reine de ce lieu et devant qui tout le monde filait doux, était une maigre et méchante vieille en deuil, méchante surtout par la faute de l'âge qui lui avait ravi le peu qu'elle eût jamais possédé de capacité mentale. Plus jeune, elle se contentait d'être toquée. Sa situation l'avait rendue plus bête encore qu'avant, et plus orgueilleuse. Lors de ses colères, la maison devenait un enfer. Ses colères affectaient deux modes distincts. Le premier était silencieux, la vieille ne desserrait pas les dents pendant des journées entières, repoussant ou jetant même à terre tout ce que l'on posait devant elle. Le second était loquace et procédait comme suit. Ma grand-mère, elle était ma grand-mère, tombait dans une morne tristesse, voyait venir et sa propre ruine et la fin du monde, pressentant un avenir de misère émaillé de tous les malheurs imaginables. Alors, elle se mettait à compter sur ses doigts toutes les calamités qu'elle prophétisait et parvenait à des résultats grandioses. Il y avait longtemps qu'elle prévoyait tout cela, mais elle était bien forcée de se taire dans cette maison. Ah, si seulement on eût consenti à lui témoigner quelque respect, si on l'eût écoutée, etc., etc. Ces discours trouvaient une véhémente approbation parmi les saints des dames de compagnie menées par la demoiselle Perepelizina et se voyaient pompeusement revêtues du sceau de Foma Fomitch. Au moment où j'apparus devant elle, elle faisait une colère du mode silencieux, assurément le plus terrible. Tout le monde la considérait avec appréhension. Seule Tatiana Ivanovna, à qui tout était permis, jouissait d'une excellente humeur. Mon oncle m'amena près de ma grand-mère avec une extrême solennité, mais esquissant une moue, elle repoussa sa tasse avec violence. « C'est ce voltigeur ?» marmonna-t-elle entre ses dents à l'adresse de la Perepelizina. Cette question absurde me désempara d'une manière définitive. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait voltigeur. Perepelizina lui murmura quelques mots à l'oreille, mais la vieille dame agita méchamment la main. Je restai quoi, interrogeant mon oncle du regard. Tous les assistants se regardèrent, et Obnoskine laissa même voir ses dents, ce qui me fut très désagréable. « Elle radote parfois !» me chuchota mon oncle, tout décontenancé lui-même. « Mais ce n'est rien, c'est par bonté de cœur. Estime surtout le cœur. »« Oui, le cœur !» cria subitement la voix de Tatiana Ivanovna, qui ne me quittait pas des yeux et ne tenait pas en place. Le mot « cœur » était sans doute parvenu jusqu'à elle. Mais elle ne finit pas sa phrase, quoiqu'elle parût vouloir dire quelque chose. Soit honte, soit pour tout autre motif, elle se tut, rougit formidablement, se pencha vers l'institutrice, lui dit tout bas quelques mots, et soudain, se couvrant la bouche d'un mouchoir, elle se rejeta sur le dossier de sa chaise et se mit à rire comme dans une crise d'hystérie. Je regardai la compagnie avec ahurissement. Mais, à mon grand étonnement, personne ne bougea, et il sembla qu'il ne se fût rien passé. J'étais édifié sur le compte de Tatiana Ivanovna. On me servit enfin le thé, et je repris un peu de contenance. Je ne sais trop pourquoi, il me parut tout à coup qu'il était de mon devoir d'entamer la plus aimable conversation avec les dames. « Vous avez bien raison, mon oncle, commençai-je, en m'avertissant tantôt du danger de se troubler. J'avoue franchement, à quoi bon le cacher ? » poursuivis-je dans un sourire obséquieux à l'adresse de Madame Obnoskine. « J'avoue que, jusqu'aujourd'hui, j'ai pour ainsi dire ignoré la société de ces dames. Et, après ma si malheureuse entrée, il m'a bien semblé que ma situation au milieu de la salle était celle d'un maladroit, n'est-ce pas? Avez-vous lu l'emplâtre ? » ajoutai-je en rougissant de plus en plus de mon aplomb et en regardant sévèrement M. Obnoskine, lequel continuait à m'inspecter du haut en bas et montrait toujours ses dents. « C'est cela même !» s'écria mon oncle avec un entrain extraordinaire, se réjouissant sincèrement de voir la conversation engagée et son neveu en train de se remettre. « Ce n'est rien de perdre contenance, mais moi j'ai été jusqu'à mentir lors de mon début dans le monde. »« Le croirais-tu ? » ?»« Vraiment, Anfissa Petrovna, c'est assez amusant à entendre. » À peine entrée au régiment, j'arrive à Moscou et je me rends chez une dame avec une lettre de recommandation. C'était une dame excessivement fière. On m'introduit, le salon était plein de monde, de gros personnages. Je salue et je m'assois. Dès les premiers mots, cette dame me demande « Avez-vous beaucoup de villages, petit père ?» Je n'avais même pas une poule. Que répondre ? J'étais dans une grande confusion. Tout le monde me regardait. Pourquoi n'ai-je pas dit « Non, je n'ai rien ». C'eût été plus noble, étant la vérité. Mais je répondis « J'ai 117 âmes ». Quelle idée d'ajouter cet appoint de 17 au lieu de mentir en chiffres ronds tout bonnement. Une minute après, par la lettre même dont j'étais porteur, on savait que je ne possédais rien et que par-dessus le marché, j'avais menti. Que faire ? Je me sauvai de cette maison et n'y remis jamais les pieds. Je n'avais rien alors. Aujourd'hui, je possède d'une part 300 âmes qui me viennent de mon oncle Afanassi Matveïevitch et 200 âmes, y compris la Kapitonovka, héritage de ma grand-mère, ce qui fait en tout plus de 500 âmes. Ce n'est pas vilain, mais de ce jour-là, je me suis juré de ne jamais mentir, et je ne mens pas. À votre place, je n'aurais pas juré. Dieu sait ce qu'il peut arriver, dit Obnobskine avec un sourire moqueur. C'est bien vrai, Dieu sait ce qu'il peut arriver, approuva mon oncle, très bonhomme. Obnobskine éclata de rire en se renversant sur le dossier de sa chaise. Sa mère sourit. La demoiselle Perepelidzina ricana d'une façon particulièrement venimeuse. Tatiana Ivanovna se mit aussi à rire, en battant des mains sans savoir pourquoi. En un mot, je vis clairement que mon oncle n'était compté pour rien dans sa propre maison. Sakenka fixa sur Obnobskine des yeux étincelants de colère. L'institutrice rougit en baissant la tête. Mon oncle s'étonna. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? » questionna-t-il en nous regardant avec ébahissement. Cependant, mon cousin, Mizantchikov, restait muet à l'écart et n'avait même pas souri alors que tout le monde riait. Il buvait son thé et regardait philosophiquement ces gens qui l'entouraient. À plusieurs reprises, il faillit se mettre à siffler, comme sous le coup d'un insupportable ennui. Mais il put toujours s'arrêter à temps. Tout en poursuivant ses agressions envers mon oncle et en commençant à me tâter, Obnoskine semblait éviter le regard de Mizantchikov. Je m'en aperçus vite. J'observai aussi que mon taciturne cousin me jetait fréquemment des coups d'œil inquisiteurs, afin peut-être de se rendre un compte exact de la catégorie d'hommes à laquelle j'appartenais. « Je suis sûre, monsieur Serge, » gazouilla soudain madame Obnobskine, « qu'à Pétersbourg, vous n'étiez pas un fervent adorateur des dames. Je sais que beaucoup des jeunes gens de là-bas évitent leur société. J'appelle ces gens-là des libres penseurs. Je ne puis que considérer cela comme un impardonnable manque de courtoisie, et je vous avoue que cela m'étonne. » Que cela m'étonne beaucoup, jeune homme. J'ai peu fréquenté le monde, répondis-je avec une extraordinaire animation. Mais je crois que cela n'a pas grande importance. J'habitais un si petit logement. Mais cela ne fait rien, je vous assure. Je m'y accoutumerai. Jusqu'à présent, je suis resté chez moi. Et il s'occupait de science, interrompit mon oncle en se redressant. Ah, mon oncle, toujours vos sciences. Imaginez-vous, continuai-je délibérément avec le même sourire aimable à l'adresse de Madame Obnobskine. Imaginez-vous que mon cher oncle est à ce point dévoué aux sciences qu'il a déniché en chemin un miraculeux adepte de la philosophie pratique, un certain Korovkin, et après tant d'années de séparation, son premier mot fut pour m'annoncer l'arrivée prochaine, et attendue avec une impatience presque convulsive, de ce phénomène. Amour de la science. Et je me mis à rire, croyant déchaîner un rire général en hommage à mon esprit. Qui ça? De qui parle-t-il? S'informa la générale auprès de Mademoiselle Perepelidzina. Yegor Ilitch a invité des savants, il se fait voiturer au long des chemins pour en récolter, répondit la demoiselle en se délectant. Mon oncle fut complètement déconcerté. Il me jeta un regard de reproche et s'écria « Ah, mais j'avais tout à fait oublié. J'attends en effet Korovkin. C'est un savant, un homme qui marquera dans le siècle. » Il s'arrêta, la parole lui manquait. Ma grand-mère agita la main, et cette fois, elle parvint à atteindre une tasse qui chut par terre et se brisa. L'émotion fut générale. C'est toujours comme ça quand elle se met en colère. Elle jette quelque chose par terre, me chuchota mon oncle tout confus. Mais il faut pour ça qu'elle soit fâchée. Ne fais pas attention. Regarde de l'autre côté. Pourquoi as-tu parlé de Korovkin? Je regardais déjà de l'autre côté. Je rencontrai même le regard de l'institutrice, et il me parut bien exprimer un reproche, et peut-être du mépris. L'indignation lui empourpra les joues, et je devinais n'avoir pas précisément gagné ses bonnes grâces dans mon lâche désir de rejeter sur mon oncle une part du ridicule qui m'écrasait. « Parlons encore de Pétersbourg !» reprit Anfissa Petrovna, une fois calmée, l'émotion qu'avait soulevé le bruit de la tasse. Avec quelle délice je me rappelle notre vie en cette ravissante capitale. Alors nous fréquentions intimement le général Polovidzin. Tu te souviens, Paul? Ah, quelle délicieuse personne était la générale! Quelles manières aristocratiques! Quel beau monde! Dites, vous l'avez probablement rencontré. J'avoue que je vous attendais avec impatience. J'espérais avoir tant de nouvelles de nos amis pétersbourgeois. Je regrette infiniment, madame, de ne pouvoir vous satisfaire. Excusez-moi, mais je viens de vous le dire. J'ai peu fréquenté la société de Pétersbourg. J'ignore le général Polovidzin, n'en ayant même jamais entendu parler, répondis-je impatiemment, car mon amabilité s'était muée soudain en une assez méchante humeur. Il étudiait la minéralogie, fit avec orgueil l'incorrigible Yegor Ilitch. La minéralogie, n'est-ce pas, est l'étude des différentes pierres. Oui, mon oncle, des pierres. Il existe beaucoup de sciences qui sont toutes fort utiles. Pour te dire la vérité, je ne savais pas ce que c'était que la minéralogie. Lorsqu'on parle de science, je me contente d'écouter, car je n'y comprends rien, je le confesse. C'est là une confession des plus sincères, ricana Obnobskine. Petit père, s'écria Sakenka avec un coup d'œil de réprobation. Quoi donc, mignonne? Ah, mon Dieu, mais je vous interromps tout le temps, Anfissa Petrovna, dit-il pour s'excuser, sans comprendre ce qu'entendait Sakenka. Pardonnez-moi, au nom du Christ. Oh, ce n'est rien, répondit la dame avec un aigre sourire. J'avais dit à votre neveu tout ce que j'avais à lui dire. Mais pour conclure, monsieur Serge, vous devriez bien vous corriger. Je ne doute pas que les sciences, les arts, la sculpture par exemple, que toutes ces hautes spéculations aient le plus puissant attrait. Mais elles ne sauraient remplacer les femmes. Ce sont les femmes, jeune homme, qui forment les hommes, et l'on ne peut se passer d'elles. C'est impossible, impossible, jeune homme.
Impossible, impossible,
cria de nouveau la voix aiguë de Tatiana Ivanovna.
Écoutez, reprit-elle toute rougissante, avec un débit précipité de gamine. Écoutez, je voudrais vous demander.
À vos ordres,
répondis-je en la regardant attentivement. Je voulais vous demander si vous êtes venu pour longtemps.
Vraiment, je ne sais pas trop, ça dépendra des affaires.
Des affaires? Quelles affaires peut-il y avoir? Oh, le fou!
Écarlate, elle se cacha derrière son éventail et se pencha à l'oreille de l'institutrice. Puis elle éclata de rire en battant des mains.
Attendez, attendez! S'écria-t-elle,
laissant là sa confidente pour s'adresser précipitamment à moi, comme si elle eût craint que je m'en allasse.
Savez-vous ce que je veux vous dire? Vous ressemblez tant, tant à un jeune homme, à un charmant jeune homme. Sakenka, Nastenka, vous vous rappelez? Il ressemble extraordinairement à cet autre fou. Te rappelles-tu, Sakenka? Nous le rencontrâmes pendant une promenade en voiture. Il était à cheval avec un gilet blanc. Et comme il me lorgnait, le monstre! Vous vous souvenez? Je me couvris le visage de mon voile, mais ne pus me tenir de me pencher à la portière en lui criant « Quel effronté !» Puis je jetai mon bouquet sur la route. Vous vous souvenez, Nastenka? Et tout émue, cette demoiselle, par trop éprise des jeunes gens, se cacha le visage dans ses mains. Bondissant ensuite de sa place, elle courut à une fenêtre, cueillit une rose qu'elle jeta près de moi et se sauva dans sa chambre. Il s'ensuivit encore une certaine confusion, mais la générale resta parfaitement calme. Anfissa Petrovna ne semblait pas autrement surprise, mais, soudain préoccupée, elle jeta sur son fils un regard anxieux. Les demoiselles rougirent. Quant à Paul Obnovskine, il se leva d'un air vexé et s'en fut à la fenêtre. Cependant, mon oncle me faisait des signes. Mais, à ce moment, un nouveau personnage apparut au milieu de l'attention générale. « Ah, voici Evgraf Larionitch !» s'écria mon oncle franchement heureux. « Vous venez de la ville ? Sont-ils drôles tous tant qu'ils sont ? On les dirait choisis et rassemblés à plaisir » pensais-je, en oubliant que j'étais un des échantillons de la collection.
5. Egevikine. Un petit homme pénétra dans la chambre, ou, pour mieux dire, il s'y enfonça à reculons, malgré que la porte fût toute grande ouverte, et dès le seuil, il fit des courbettes, salua, montra ses dents et nous examina tous avec curiosité. C'était un petit vieillard, grêlé, aux yeux vifs et fuyants, chauve, avec une bouche lipue, où errait un sourire ambigu et fin. Il était vêtu d'un frac très usé et qui n'avait pas dû être fait pour lui. Un des boutons y tenait par un fil. Deux ou trois autres manquaient complètement. Ses bottes trouées et sa casquette crasseuse s'harmonisaient bien avec le reste de son costume. Il tenait à la main un mouchoir sale avec lequel il s'épongeait le front et les tempes. Je remarquai que l'institutrice avait un peu rougi en me jetant un rapide coup d'œil où il y avait quelque chose de fier et de provoquant.
« Tout droit de la ville, mon bienfaiteur, tout droit, mon père !» répondit-il à mon oncle. « Je vais tout vous dire, mais permettez-moi auparavant de présenter mes salutations. »
Il fit quelques pas dans la direction de la générale, mais il s'arrêta à mi-chemin et s'adressa de nouveau à mon oncle.
« Vous connaissez mon trait caractéristique, mon bienfaiteur. Je suis un chien couchant, un véritable chien couchant. À peine entré quelque part, pour la première fois, je cherche des yeux la principale personne de la maison, et je vais à elle pour me concilier ses bonnes grâces et sa protection. Je suis une canaille, mon père. Une canaille, mon bienfaiteur.
Permettez-moi, madame, votre excellence, permettez-moi de baiser votre robe, de peur que mes lèvres ne salissent votre petite main de général. »
À mon étonnement, la générale lui tendit la main, non sans grâce.
« Je vous salue aussi, notre belle, » continua-t-il en se tournant vers la demoiselle Perepelizina. « Que faire, chère madame? Je suis une canaille. C'était déjà décidé en 1841, quand je fus chassée du service. Monsieur Tikhontsev fut nommé assesseur, lui, et moi, canaille. Je suis d'une nature si franche que j'avoue tout. Que faire? J'ai essayé de vivre honnêtement, mais ce n'est plus ce qu'il faut aujourd'hui. »
Il contourna la table et s'approcha de Sakenka en lui disant
« Alexandra Yegorovna, notre pomme parfumée, permettez-moi de baiser votre robe. Vous embaumez la pomme, mademoiselle, et d'autres parfums délicats. Mon respect à Ilusha. Je lui apporte un arc et une flèche confectionnés de mes mains avec l'aide de mes enfants. Tantôt nous irons tirer cette flèche. Et quand vous grandirez, vous serez officier et vous irez couper la tête aux Turcs.
Tatiana Ivanovna.
Ah, mais elle n'est pas ici, la bienfaitrice, sans quoi j'eusse aussi baisé sa robe. Praskovia Ilinichna, notre petite mère, je ne puis parvenir jusqu'à vous. Autrement, je vous aurais baisé non seulement la main, mais aussi le pied. Anfissa Petrovna, je vous présente tous mes hommages. Aujourd'hui même, à genoux et versant des larmes, j'ai prié Dieu pour vous, et j'ai prié aussi pour votre fils, afin que le Tout-Puissant lui envoie beaucoup de grades et de talent surtout. Je vous salue par la même occasion, Ivan Ivanitch Mizantchikov. Dieu vous donne tout ce que vous désirez. Mais on ne saurait le deviner, vous ne dites jamais rien. Bonjour, Nastia. Toute ma marmaille te salue, nous parlons de toi tous les jours. Et maintenant, un grand salut au maître. J'arrive tout droit de la ville, votre noblesse. Mais voici sûrement votre neveu qui était à l'université. Tous mes respects, monsieur. Voulez-vous m'accorder votre main ?
Un rire se fit entendre. Il était visible que le vieillard bouffonnait. Son entrée avait ranimé la compagnie, bien que plusieurs des assistants ne comprissent pas ses sarcasmes, qui pourtant en épargnaient personne. Seule l'institutrice, qu'à ma surprise il avait tout simplement appelée Nastia, rougissait et fronçait les sourcils. Je retirai ma main, le vieux n'attendait que cela.
« Mais je ne vous la demandais que pour la serrer, si vous le permettez, et non pour la baiser, mon petit père. »
Vous croyez que c'était pour la baiser?
Non, mon petit père, seulement pour la serrer. Peut-être me prenez-vous pour un bouffon?
Demanda-t-il d'un ton moqueur.
Non, que dites-vous, Si, je suis bouffon, je ne suis pas seul. Vous me devez le respect, et je ne suis pas aussi lâche que vous le pensez. D'ailleurs, peut-être suis-je un bouffon. Je suis en tout cas un esclave. Ma femme est une esclave, et il nous faut flatter les gens. Il y a toujours quelque chose à y gagner. Il faut mettre du sucre, plus de sucre dans tout, en ajouter encore. Ce ne sera que meilleur pour la santé. Je vous le dis en secret, et ça pourra vous servir. Je suis bouffon parce que je n'ai pas de chance.
Quel vieux polisson! Il ne manque jamais de nous faire rire! S'écria Anfissa Petrovna.
Petite mère, ma bienfaitrice, il est aisé de vivre en faisant la bête. Si je l'avais su plus tôt, je me serais mis jocrisse dès ma jeunesse et n'en serais peut-être maintenant que plus intelligent. Mais, ayant voulu avoir de l'esprit de fort bonheur, je ne suis plus qu'un vieil imbécile.
Dites-moi donc, je vous prie, interrompit Obnobskine, à qui certaines allusions à ses talents avaient sans doute déplu. Il était vautré, fort librement vautré dans un fauteuil, et examinait le vieillard à travers son lorgnon.
« Dites-moi donc votre nom, s'il vous plaît. Je l'oublie toujours.
Comment donc ?»«
Ah, mon petit père, mon nom, si vous le voulez, est Ejevikine. Mais quel profit en retirerez-vous ? Voilà 8 ans que je suis sans place, ne vivant que par la force de la nature. » Et ce que j'en ai eu, des enfants.
Bon, laissons cela, mais écoutez, voici longtemps que je voulais vous demander pourquoi vous vous retournez toujours aussitôt que vous êtes entré. C'est très drôle à voir.
Pourquoi je regarde en arrière? Mais parce qu'il me semble toujours qu'il y a derrière moi quelqu'un qui va me frapper. Voilà pourquoi. Je suis devenu monomane, mon petit père.
On rit encore, l'institutrice se leva, fit un pas pour s'en aller, mais elle se rassit. Malgré la rougeur qui le couvrait, son visage exprimait une souffrance maladive.
« Tu sais, » me chuchota mon oncle, « c'est son père. »
Je regardai mon oncle avec effarement. J'avais complètement oublié le nom d'Ejevikine. Pendant tout le trajet en chemin de fer, j'avais fait le héros, rêvant à ma promise supposée, bâtissant à son profit les plans les plus généreux. Mais je ne me souvenais plus de son nom, ou plutôt, je n'y avais pas fait attention.
« Comment, son père ? » fis-je aussi dans un chuchotement. « Je la croyais orpheline. »«
C'est son père, mon ami, son père. Et tu sais, c'est le plus honnête homme du monde. Il ne boit pas, et c'est pour s'amuser qu'il fait le bouffon. Ils sont dans une misère affreuse. 8 enfants. Ils n'ont pour vivre que les appointements de Nastienka. Il fut chassé du service à cause de sa mauvaise langue. Il vient nous voir toutes les semaines. Il est très fier. Il ne veut accepter quoi que ce soit. Je lui ai fait plusieurs fois des offres, mais il n'écoute rien. » Mais s'apercevant que le vieillard nous écoutait, mon oncle lui frappa vigoureusement sur l'épaule et s'enquit. « Eh bien, Evgrav Larionitch, quoi de neuf en ville ?»«
Quoi de neuf, mon bienfaiteur ?
Monsieur Tikhontsev exposa hier l'affaire de Trikine, qui n'a pu représenter son compte de sac de farine. C'est madame, ce même Trikine qui vous regarde en dessous. » Vous vous le rappelez peut-être. Monsieur Tikhontsev a fait sur lui le rapport suivant. Si le dit Trikine ne fut pas même capable de garder l'honneur de sa propre nièce, laquelle disparut l'an dernier en compagnie d'un officier, comment aurait-il pu garder les sacs de l'intendance?
C'est textuel, je vous le jure.
Fi, quelles laides histoires nous racontez-vous là? S'écria Anfissa Petrovna.
Voilà, voilà, tu parles trop, Evgraf, ajouta mon oncle.
Ta langue te perdra. Tu es un homme droit, honnête, de bonne conduite, on peut le dire. Mais tu as une langue de vipère. Je m'étonne que tu puisses t'entendre avec eux là-bas. Ce sont tous de braves gens, simples.
Mon père est bienfaiteur, mais c'est précisément l'homme simple qui me fait peur,
s'écria le vieillard avec une grande vivacité. La réponse me plut. Je m'élançai vers Ejevikine et lui serrai la main. À vrai dire, j'entendais protester ainsi contre l'opinion générale en montrant mon estime pour ce vieillard. Et, qui sait, peut-être voulais-je aussi me relever dans l'opinion de Nastasia Evgranovna. Mais mon geste ne fut pas heureux. « Permettez-moi de vous demander, » fis-je en rougissant, et selon ma coutume, en précipitant mon débit, « avez-vous entendu parler des jésuites ?»«
Non, mon père, ou bien peu. Mais pourquoi cela ?»«
Oh, je voulais raconter à ce propos... Faites-m'y donc penser à l'occasion. Pour le moment, soyez sûr que je vous comprends et que je sais vous apprécier. » Et tout à fait confus, je lui saisis encore la main.
Comptez que je vous le rappellerai, mon petit. Je vais l'inscrire en lettres d'or. Tenez, je fais tout de suite un pense-bête. » Et il orna d'un nœud son mouchoir, tout souillé de tabac. « Evgraf Larionitch, prenez donc votre thé, » lui dit ma tante. « Tout de suite, belle madame, je voulais dire princesse. Et voici pour le thé que vous m'offrez. J'ai rencontré en route M. Bakcheyev. Il était si gai que je me suis demandé s'il n'allait pas se marier. » « De la flatterie, toujours de la flatterie » ajouta-t-il à mi-voix et avec un clin d'œil en passant devant moi, sa tasse à la main. « Mais comment se fait-il qu'on ne voit pas le principal bienfaiteur, Foma Fomitch ? Ne viendra-t-il pas prendre son thé ?» Mon oncle tressaillit comme si on l'eût piqué et regarda timidement la générale. « Ma foi, je n'en sais rien. » répondit-il avec une singulière confusion. « On l'a fait prévenir, mais il... sans doute n'est-il pas d'humeur. J'y ai déjà envoyé Vido Pliassov. Et... si j'y allais moi-même ?»«
Je suis entré chez lui, » dit Ejevikin d'un ton énigmatique.
« Est-ce possible ?» s'écria mon oncle effrayé.
« Eh bien, qu'y a-t-il ?»
« Oui, avant tout, je suis allé le voir pour lui présenter mes hommages, et il m'a dit qu'il entendait prendre son thé chez lui, et seul avec lui-même. Il a même ajouté qu'il pouvait bien se contenter d'une croûte de pain sec. »
Ces paroles semblèrent terroriser mon oncle.
« Mais comment ne lui expliques-tu pas, ne le persuades-tu pas ?»«
Evgraf, » dit mon oncle avec reproche.
« Je lui ai dit ce qu'il fallait. »«
Eh bien ?»
Pendant un bout de temps, il n'a pas répondu. Il était absorbé par un problème de mathématiques qui devait être fort difficile. Il avait dessiné les figures, je les ai vues. J'ai dû répéter 3 fois ma question. Ce n'est qu'à la 4e qu'il releva la tête et parut s'apercevoir de ma présence.
« Je n'irai pas, » me dit-il. « Il y a un savant qui est arrivé. Puis-je rester auprès d'un pareil astre ?»
Ce sont ses propres paroles.
Et le vieux me lança un coup d'œil d'ironie.
« Je m'attendais à cela, » fit mon oncle en frappant des mains.
« Je l'avais bien pensé. C'est de toi, Serge, qu'il parle.
Que faire maintenant ?»«
Il me semble, mon oncle, » répondis-je avec dignité et en haussant les épaules. « Il me semble que cette façon de refuser est tellement ridicule qu'il n'y a vraiment pas à en tenir compte, et je vous assure que votre confusion m'étonne. »«
Ah, mon cher, tu n'y comprends rien !»
cria mon oncle avec un geste énergique.
« Inutile de vous lamenter maintenant, »
interrompit Mademoiselle Perepelizina, « puisque c'est vous la cause de tout le mal. Si vous aviez écouté votre mère, vous n'auriez pas à vous désoler à présent. »
« Mais de quoi suis-je coupable, Anna Nilovna ? Vous ne craignez donc pas Dieu ?»
gémit mon oncle d'une voix suppliante qui voulait provoquer une explication.
« Si, je crains Dieu, Yegor Ilitch. Tout cela ne provient que de votre égoïsme et du peu d'affection que vous avez pour votre mère, »
répondit avec dignité Mademoiselle Perepelizina.
« Pourquoi n'avez-vous pas respecté sa volonté dès le début ? Elle est votre mère. Quant à moi, je ne vous mentirai pas. Je suis la fille d'un lieutenant-colonel, moi aussi, et non pas la première venue. »
Il me parut bien que cette demoiselle ne s'était mêlée à la conversation que dans le but unique d'informer tout le monde, et particulièrement certains nouvelles arrivées, qu'elle était la fille d'un lieutenant-colonel et non la première venue.
« Il outrage sa mère !» dit enfin la générale avec une grande sévérité.
« De grâce, ma mère, que dites-vous là ?
Tu es un profond égoïste, Yegorushka !»
poursuivit la générale avec une animation croissante.
« ma mère, moi, un profond égoïste !»
s'écria désespérément mon oncle.
« Voici 5 jours que vous êtes fâché contre moi et que vous ne me dites pas un mot. Et pourquoi ? Pourquoi ?
qu'on me juge, que tout le monde me juge, qu'on entende enfin ma justification. Pendant longtemps, je me suis tue, ma mère. Jamais vous n'avez voulu m'écouter. Que tout le monde m'écoute à présent. Anfissa Petrovna, Paul Semyonovitch, noble Paul Semyonovitch. Serge, mon ami, tu n'es pas de la maison, tu es pour ainsi dire un spectateur. Tu peux juger avec impartialité. Calmez-vous, Yegor Ilitch, calmez-vous! S'écria Anfissa Petrovna. Ne tuez pas votre mère! Je ne tuerai pas ma mère, Anfissa Petrovna, mais frappez! Voici ma poitrine! Continuait mon oncle au paroxysme de l'excitation, comme on voit les hommes de caractère faible, une fois à bout de patience. Encore que toute cette belle ardeur ne soit qu'un feu de paille. « Je veux dire, Anfissa Petrovna, que je n'ai dessein d'offenser personne. Je commence par déclarer que Foma Fomitch est l'homme le plus généreux, qu'il est doué des plus hautes qualités, mais il a été injuste envers moi dans cette affaire. »« Hum !» grogna Obnobskine, comme pour pousser encore mon oncle. « Paul Semyonovitch, mon honorable Paul Semyonovitch, croyez-vous vraiment que je ne sois qu'une poutre insensible? Mais je vois tout, je comprends tout. Je comprends tout avec les larmes de mon cœur, je puis le dire. Je comprends que tous ces malentendus sont le produit de l'excessive amitié qu'il a pour moi. Mais je vous jure qu'en cette affaire, il est injuste. Je vais tout vous dire. Je veux raconter cette histoire dans sa pleine vérité, dans tous ses détails, pour que tout le monde en voie clairement les causes et décide si ma mère a raison de m'en vouloir parce que je n'ai pas pu satisfaire Foma Fomitch. Écoute-moi, toi aussi, Seryoja, ajouta-t-il en se tournant vers moi, et il garda cette attitude pendant tout son récit, comme s'il n'eût guère eu confiance en la sympathie des autres assistants. Écoute-moi, toi aussi, et dis-moi si j'ai tort ou raison. Voici le point de départ de toute cette affaire. Il y a 8 jours, oui, juste 8 jours, mon ancien chef, le général Oussapetov, passe dans notre ville avec sa femme et sa belle-sœur, et s'y arrête quelque temps. J'en fus ravi, je saute sur cette bonne occasion, je cours les voir et les invite à dîner. Le général me donne sa promesse de venir autant que possible. Un homme charmant, je ne dis que cela, et resplendissant de vertu. Et un vrai seigneur par-dessus le marché. Il a fait le bonheur de sa belle-sœur en la mariant à un jeune homme tout à fait bien qui est fonctionnaire à Malinovo et qui, jeune encore, possède une instruction universelle, pour ainsi dire. En un mot, un général parmi les généraux. Naturellement, voilà toute la maison sans dessus-dessous. Les cuisiniers préparent leurs plats, je retiens des musiciens et suis au comble du bonheur. Mais est-ce que cela ne déplaît pas à Foma Fomitch? Je me souviens que nous étions à table, on venait de servir un de ses mets favoris. Soudain, il se lève brusquement en criant « On me blesse! On me blesse !»« Comment ça ?» lui dis-je. « Vous me méprisez à présent, vous n'êtes plus occupé que de généraux, vous les aimez mieux que moi !» Tu comprends, je ne rapporte brièvement que le gros de l'affaire, mais si tu avais entendu tout ce qu'il disait, en un mot, il m'a chaviré le cœur. Que pouvais-je faire? Naturellement, cela m'a complètement abattu. J'étais comme une poule mouillée. Le grand jour venu, le général fait dire qu'il ne peut venir et qu'il présente ses excuses. Je me rends chez Foma. Allons, calme-toi, Foma, le général ne viendra pas. « On m'a blessé !» continue-t-il à crier. « Je le prends par tous les bouts. Non, allez avec vos généraux, puisque vous les préférez à moi. Vous avez tranché le nœud de l'amitié. » « Mon ami, je comprends le motif de son ressentiment. Je ne suis pas une souche, ni un bœuf, ni un vague pique-assiette. C'est son amitié pour moi qui le pousse. Sa jalousie, il me l'a dit lui-même. Il craint de perdre mon affection. » Et il m'éprouve afin de voir ce que je suis capable de faire pour lui. Non, me dit-il, je dois être pour vous autant qu'un général, qu'une excellence. Je ne me réconcilierai avec vous que lorsque vous m'aurez prouvé votre estime. Comment te l'a prouvé, Foma Fomitch?
en m'appelant pendant toute une journée « Votre Excellence ».
Je tombe des nues, tu vois d'ici mon étonnement.
Que cela vous serve de leçon, continue-t-il, et vous apprenne pour l'avenir à ne plus admirer de généraux alors que d'autres leur sont peut-être supérieurs.
Alors, je le confesse devant tous, je n'y tins plus.
Foma fomitch, lui dis-je, cela est impossible. Je ne saurais me résoudre à une chose pareille. Ai-je le droit de te faire général? Pense-y toi-même, qui donc possède ce pouvoir?
Voyons, comment te dirais-je, votre excellence?
Ce serait attenter aux choses les plus saintes.
Mais un général, c'est l'honneur de la patrie. Il a combattu, il a versé son sang sur le champ de bataille.
Il n'a rien voulu entendre. Foma, je ferai tout ce que tu voudras. Tu m'as demandé de raser mes favoris que tu trouvais antipatriotiques. Je les ai rasés, à contre-cœur, mais je les ai rasés. Je ferai d'autres sacrifices si tu le désires. Renonce seulement à te faire traiter en général.
Non, dit-il, je ne me réconcilierai que lorsqu'on m'appellera votre excellence.
Ce sera fort salutaire à votre moralité en abaissant votre orgueil.
Et voilà 8 jours qu'il ne me parle plus. Il en veut à tous ceux qui viennent ici. Il a su que tu es un savant, et, par ma faute, je n'ai pas su tenir ma langue. Il m'a alors déclaré qu'il ne resterait pas 1 minute de plus dans la maison si tu y venais.
Alors, moi, je ne suis donc plus un savant pour vous? Que sera-ce quand il apprendra la venue de Korovkin?
Voyons, réfléchis, dis-moi de quoi je suis coupable. Puis-je me résoudre à lui donner de l'excellence? Est-il possible de vivre pareillement? Pourquoi, aujourd'hui même, a-t-il chassé de table ce pauvre Bakcheyev?
Admettons que Bakcheyev n'a pas inventé l'astronomie.
Nous non plus.
Pourquoi? Voyons, pourquoi tout cela?
Parce que tu es un envieux, Yegorushka,
dit encore la générale.
Ma mère!
S'écria mon oncle au paroxysme du désespoir.
Vous me ferez perdre la raison. On ne dirait pas que c'est ma mère qui parle. Je suis donc une solive, une lanterne, et non plus votre fils.
Mais, fis-je, extrêmement surpris par ce récit, Bakcheyev m'a dit, à tort ou à raison, que Foma Fomitch était mis en jalousie par la fête d'Ilucha et qu'il prétendait être fêté le même jour. J'avoue que ce trait m'a étonné à un point.
C'est son anniversaire, mon cher, et non sa fête, interrompit précipitamment mon oncle. Bakcheyev s'est mal exprimé, tout simplement. C'est demain l'anniversaire d'Ilucha.
La vérité avant tout, mon cher.
Ce n'est pas du tout son anniversaire, s'écria Sakenka.
Comment? Ce n'est pas son anniversaire? S'exclama mon oncle absolument ahuri.
Non, petit père, ce n'est pas son anniversaire. Vous imaginez cela pour vous tromper vous-même et pour contenter Foma Fomitch. Son anniversaire fut célébré au mois de mars, et vous vous en souvenez bien, nous fûmes en pèlerinage au monastère. Foma ne cessa de se plaindre que le cousin lui avait broyé les côtes et pinça ma tante à 2 reprises par pure méchanceté. Et quand nous lui avons souhaité sa fête, à lui, il se fâcha de ce qu'il n'y avait pas de camélias dans notre bouquet.
« J'aime les camélias, nous dit-il, parce que j'ai des goûts distingués, et vous avez regardé à dégarnir votre serre pour moi. »
Toute la journée, il fut de mauvaise humeur, et ne nous adressa plus la parole.
J'imagine qu'une bombe tombant au milieu de la chambre n'aurait pas mieux surpris et épouvanté l'assemblée que cette révolte subite.
Et de qui? D'une fillette, à qui défense était faite d'élever seulement la voix à table en présence de sa grand-mère.
Atterrée, stupéfaite, folle de colère, la générale se redressa, les yeux fixés sur l'insolente enfant, et n'en pouvant les croire.
« On permet cela? On veut la laisser tuer sa grand-mère ?»
brama Perepelidzina.
Sacha, Sacha, tais-toi. Qu'as-tu?
Criait mon oncle, courant de sa mère à sa fille et de sa fille à sa mère.
Je ne me tairai pas, petit père,
cria Sacha en bondissant tout à coup de sa chaise. Elle frappait du pied et ses yeux lançaient des éclairs. « Je ne me tairai pas. Nous avons tous par trop souffert à cause de ce méchant Foma Fomitch. Il va nous perdre tous, parce qu'à chaque instant on lui répète qu'il est plein d'esprit, magnanime, généreux, savant, qu'il est le résumé, le pot pourri de toutes les vertus. Et il le croit, l'imbécile. On lui a servi tant de plats sucrés que tout autre à sa place en aurait eu honte. Mais lui, il a avalé tout ce qu'on lui a présenté, et il en redemande encore. Vous allez voir qu'il nous dévorera tous par la faute de papa. Oh, le méchant Foma! Je dis ce que j'ai à dire, et je n'ai peur de personne. Il est bête, capricieux, malpropre, grossier, cruel, tyran, calomniateur, menteur. Ah, s'il ne tenait qu'à moi, il y a longtemps qu'on l'aurait chassé d'ici. Mais papa l'adore. Papa en est fou.
Ah !
La générale fit un cri et s'affaissa sur le divan. Ma chère Agafia Timofievna, mon ange ! Criait Anfissa Petrovna. Prenez mon flacon, de l'eau, plus vite !
De l'eau !» criait mon oncle.
« ma mère, calmez-vous. Je vous supplie à genoux de vous calmer. » « On devrait vous mettre en cellule, vous mettre au pain et à l'eau, criminel que vous êtes !»
sifflait entre ses dents la Perepelidzina, qui semblait vouloir percer sa canica de son regard furieux.
« Eh bien, qu'on me mette au pain et à l'eau, je ne crains rien !»
criait sa canica emportée. « Je défends papa parce qu'il ne peut se défendre lui-même. Mais qu'est-ce que votre Foma Fomitch auprès de mon petit père ? Il mange le pain de papa, et par-dessus le marché, il l'insulte, il le rabaisse, l'ingrat. Mais je le mettrai en lambeaux, votre Foma Fomitch, je le provoquerai en duel, et je le tuerai avec deux pistolets.
« Sacha ! Sacha ! » criait mon oncle au comble de la souffrance. « Encore un mot et tu me perds à jamais !»«
Papa !» s'écria Sacha en se précipitant vers son père, qu'elle étreignit dans ses bras, les yeux baignés de larmes.
« Papa, comment vous perdriez-vous, vous si bon, si beau, si gai, si intelligent ? Est-ce donc à vous de vous soumettre à ce méchant ingrat, de devenir comme un jouet dans ses mains jusqu'à en être la risée de tout le monde ? Papa, mon père adoré !»
Elle éclata en sanglots, et se couvrant la figure de ses mains, elle s'enfuit de la salle. Ce fut un tumulte indescriptible. La générale avait une syncope, et à genoux devant elle, mon oncle lui baisait les mains. La demoiselle Perepelidzina se démenait autour d'eux et nous lançait des regards féroces, mais triomphants. Anfissa Petrovna bassinait d'eau fraîche les tempes de la générale et lui tenait son flacon. Praskovia Ilinichna, toute tremblante, versait d'abondantes larmes. Et Jevikine cherchait un coin où se cacher, et pâle comme une morte, l'institutrice, éperdue de terreur, restait là, debout. Seule, Mizantchikov ne s'émouvait pas. Il se leva, s'approcha de la fenêtre, et se mit à regarder au dehors, sans prêter la moindre attention à la scène qui se jouait. Tout à coup, la générale se souleva du divan, se redressa, et, me toisant furieusement,
« Allez-vous-en »
cria-t-elle en frappant du pied.
Je ne m'attendais nullement à une pareille algarade.
« Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Quittez cette maison ! Que vient-il faire ici ? « Je ne veux pas qu'il reste un seul instant dans la maison. Je le chasse. »«
ma mère, voyons, mais c'est Serioja !» marmottait mon oncle, tout tremblant de peur.
« Il est ici en visite, ma mère. »«
Et quel Serioja ? Sottise ! Pas d'explication. Qu'il s'en aille !»«
C'est Korovkin, j'en suis sûre. Mes pressentiments ne me trompent point. Il est venu pour chasser Foma Fomitch. » « Mon cœur le sent bien. Allez-vous-en, canaille !»«
Mon oncle, » dis-je, étouffant une noble indignation, « s'il en est ainsi, je... Excusez-moi. » Et je saisis mon chapeau.
«
Serge, Serge, que fais-tu? Vas-tu t'y mettre aussi? Ma mère, mais c'est Seryoja! Serge, de grâce!
Criait-il en courant après moi et en s'efforçant de me reprendre mon chapeau. Tu es mon hôte, tu resteras ici, je le veux.
Ce qu'elle dit n'a pas d'importance, ajouta-t-il à voix basse. C'est parce qu'elle est en colère. Cache-toi seulement pour un instant, ça va se passer. Je t'assure qu'elle te pardonnera. Elle est très bonne. Mais en ce moment, elle ne sait pas ce qu'elle dit.
Tu as entendu? Elle te prend pour Korovkin. Mais je te jure qu'elle te pardonnera.
Que veux-tu?
Demanda-t-il à Gavrilo, qui, tout tremblant, était entré dans la chambre. Gavrilo n'était pas seul. Il était accompagné d'un jeune garçon de 16 ans et très beau. Je sus plus tard qu'on ne l'avait pris dans la maison que pour sa beauté. Il s'appelait Falalei et portait un accoutrement spécial. Chemise de soie rouge à col galonné, ceinture tissée de fil d'or, pantalon de velours noir et bottes en chevreau à revers rouge. Ce costume était de l'invention de la générale. L'enfant sanglotait et les larmes coulaient de ses beaux yeux bleus.
« Mais qu'est-ce encore que cela ? » s'exclama mon oncle. « Qu'est-il arrivé ? Mais parle donc, brigand !
Enfin, ma Fomitch nous a ordonné de nous rendre ici. Il nous suit !» répondit le malheureux Gavrilo.
« Moi, c'est pour l'examen, et lui... »«
Et lui ?»
« Il a dansé !»
répondit Gavrilo avec des larmes dans la voix.
« Il a dansé ?»
s'écria mon oncle avec terreur.
« J'ai dansé !»
sanglota Falalei.
« Le Kamarinsky ?»
Danse populaire russe sur l'air d'une chanson relatant les hauts faits d'un paysan de ce nom. On l'appelle aussi la Kamarinskaya.
« Le Kamarinsky ?» « Et Foma Fomitch t'a surpris ?»«
Il m'a surpris. »«
Il me tue !» s'exclama mon oncle. « Je suis perdu. »
Et il se prit la tête à deux mains.
« Foma Fomitch !»
annonça Vido Pliassov en pénétrant dans la salle. Et Foma Fomitch se présenta en personne devant la société bouleversée.